Ok, on a parlé la dernière fois du Rabbi Yonah ben Shaoul, on va continuer aujourd'hui. Je vous rappelle que ce jeudi donc, 19 Tammuz, c'est le Yortzeit, la Hiloula, l'anniversaire du décès du Rabbi Yonah ben Shaoul. Et donc, ça vaut la peine d'aller sur sa tombe. Ici à Yerushalayim, il est enterré à la cimetière de Sanhedria, qui est un petit cimetière pas trop connu. Et ça vaut la peine, ceux qui ne viennent pas au cimetière, ou même ceux qui vont au cimetière aussi, d'allumer une bougie en son honneur et pour l'élévation de son âme. Son nom, c'est Ben Sion Ben Bunaya. Le nom de sa mère, c'est Bunaya. En 1964, un des grands rabbins d'Amérique, qui s'appelle le Rav Eliezer Silver, est venu faire un tour en Israël, visiter un peu toutes les yeshivotes. Et tous les rabbins yeshivotes, tous les directeurs des yeshivotes étaient très anxieux parce que c'était un rabbin très, très dur. Il ne se gênait pas pour ratatiner et critiquer. C'est un grand génie, mais un homme très, très sans miséricorde. Il est venu aussi visiter la yeshivote de Porat Yosef. Et le Rav Ezra Tie, donc c'était le Rav de Rabben Sion et le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ezra Tie, qui était le Rosh Yeshiva, comme je vous ai raconté la dernière fois, la yeshivote de Porat Yosef, il tremblait de peur de cette visite du Rav Ezer Silver. Le Rav Ezer Silver vient à la yeshiva et commence un pilpoul, un shiur, un cours de Torah extrêmement complexe de 3 heures. Et il pose une kushiya, une objection, dans Seder Taharot. Taharot, c'est la partie que personne n'étudie. D'accord, on a 6 heures de la Mishnah, Zraim, ce qui va avec les plantes, toute la végétation, la Shemitah, etc. Après Moed, les fêtes. Après Nashim, tout ce qui est mariage, Gittin, etc. Après Nezikin, c'est toutes les questions pécuniaires. Après Kodshim, c'est tout ce qui a à voir avec les corbanos, les sacrifices, ainsi que la Shrita, Houlin, etc. Et le dernier, qui n'y a même pas une Gemara, il n'y a pas une Gemara dans le Bavli qui parle de cela, donc Talmud de Babylone, parce que c'est une chose qui est complètement inactuelle. Toutes les questions de pureté et d'impureté, datant Nida, c'est vrai, à part Nida, toutes les questions de pureté et d'impureté qui datent d'il y a 2000 ans, d'accord. C'est très dur à étudier parce qu'on parle de, toutes sortes d'instruments, d'ustensiles qui sont plus actuels, et les lois de pureté et d'impureté. C'est très compliqué et très inactuel. C'est très dur même de déchiffrer l'ABC. Et voici que le Rav Eliezer Silver pose une objection comme ça, tac, en Taharot. Rav Ben Sion, un second, tac, lui donne la réponse. Rav Eliezer Silver est resté complètement sidéré. Il t'a vu ça dans un livre, non? Alors toi-même, tu viens de penser ça? Oui. Bon. Un peu plus tard, durant ce cours de 3 heures, le Rosh Yeshiva, le Rav Ezra Tie, a dû aller aux toilettes. Alors, Rav Ben Sion l'a accompagné. Alors, Rav Ben Sion est sorti, le Rav Ezra Tie a dit, sachez que cet avrech-là, c'est extraordinaire. La même question que je lui ai posée, il y a environ 40 ans, au plus grand rabbin de génération. Et parmi eux, il y avait le Orsamer. Alors sa mère a réfléchi à la question pendant 20 minutes, après 20 minutes, il m'a donné la réponse que m'a donné maintenant ce petit rave, comme ça, sans faire facilement. Et il a écrit le rave Eliezer Silver en quittant la yeshiva. J'ai vu dans cette yeshiva ce que j'ai pas vu dans d'autres yeshivas en Israël. De plus, ils étudient pendant Ben Hasbanim, sachez que aujourd'hui ça ne se fait à part pour Atiosef, d'accord, c'est la seule yeshiva, Sfarad, qui fait encore la vraie coutume des choses farades d'antan, c'est qu'il n'y a pas de vacances l'été. Là, nous, dans 3 semaines, il y aura 3 semaines de vacances. Pas de vacances, on étudie. Tous les chivotes sont en vacances, on est au bord de la mer, etc. Eux, ils étudient. Ils prennent quand leurs semaines de vacances, leurs 3 semaines de vacances, entre Rosh Hashanah et Sukkot. C'est-à-dire les jours où, qui pensait là en vacances? C'est Aseret Metshuva, tu es en tremblant, tu es dans les Slichot, dans quelques jours, c'est Yom Kippour. Là, ils prennent les vacances. Pour pas que les élèves, c'est très dur chaque année, les élèves, malgré tout. Alors lui, il a écrit, et vu que je vois qu'eux, au lieu de partir en vacances, continuent à étudier, je suis convaincu que parmi ces élèves et les rabbanim qui sont dans cette shiva, sortiront des génies guéonnés Israël, des génies du peuple d'Israël. Effectivement, sont sortis les rabbins de Yosef, sont sortis les rabbins de Shaoul, des génies d'Israël. Le rabbin Sion lui-même, il m'a dit qu'il avait vu que le rav Ezra Tie, son rav, il rougissait de honte. Des questions que le rav Sivar... Ça l'a énervé. Alors, il s'est dit, les Shem Shamaim, pour l'honneur de la Yeshiva, pour At Yosef et pour l'honneur de mon Rav, je lui réponds comme il faut. Et là, il a dit qu'il a une certaine Yeshiva, il a une note du ciel, et qu'il a trouvé la réponse comme ça, tac, rapidement. Mais néanmoins, Baruch Hashem, le Keren, c'est-à-dire le drapeau des Yeshivot Sfaradiot est beaucoup remonté grâce à cette histoire-là à l'époque. Après que le Rav Ezrati est décédé, je vous ai déjà raconté que celui qui a pris la place en tant que Rosh Yeshiva, c'était le Rav Yehuda Tzadka. Un jour, Rav Yehuda Tzadka a réuni toute la Yeshiva pour essayer de leur dire, sachez que le Rav Yehuda raconte cette histoire-là, il ne veut pas que je la raconte, mais je la raconte quand même. Et le Rav Yehuda en a voulu au Rav Tzadka, comment il racontait ça. Il y a, lorsque, près d'un siècle, l'électricité est arrivée sur le marché. Les lumières, les frigos. Est-ce qu'on peut ouvrir un frigo Shabbat? Est-ce qu'on peut allumer une lumière Shabbat? Est-ce qu'on peut allumer un transistor dans lequel il n'y a pas de lumière Shabbat? La question se posait, qu'est-ce que c'est exactement au niveau de Shabbat, l'électricité? Majorité des poskim m'ont dit, c'est une question ici d'allumer le feu. D'accord? Tu allumes un feu. D'autres disent, mais ça n'a rien à voir qu'un feu. Dans un néon, tu n'as pas de feu. Dans une radio. Après, la petite lampe, on enlève la petite lampe qui s'allume pour le témoin lumineux. Tu n'as pas de feu. C'est des transistors, c'est un système électrique. D'accord? Alors, Razonich a beaucoup étudié tout le cas d'électricité et lui est arrivé à la conclusion qu'il y a une histoire de bonnet. C'est une construction. Une construction. Et beaucoup de rabbinim n'étaient pas d'accord avec lui. Et il y a eu beaucoup d'encre a été répandue sur comment la chita, comment le Razonich, il étudie l'électricité. C'est une question, quand tu fermes le circuit, tu construis. Lorsque tu ouvres le circuit, tu détruis. C'est une construction de destruction Shabbat. Alors, Ben Sion s'est attelé à la tâche de définir, bien comprendre c'est quoi la chita de Razonich. Et pendant des jours et des jours, il a étudié la chita de Razonich. La nuit, Razonich est venu en rêve et lui a dit. Et comme ça, le Rav Yehuda Tzadka a dévoilé ça toute la yeshiva. Mais sache que j'ai beaucoup de détracteurs sur ce que j'ai dit, mais toi, tu es un des seuls qui a bien compris ce que je voulais dire. Bravo. Alors, Yehuda Tzadka, vous voyez quel homme on a parmi nous. Et on ne se rendait pas compte, je vous dis, le Rav Ben Sion, c'était un homme d'une simplicité extraordinaire. J'ai un bon copain qui va sûrement nous voir sur Internet, il s'appelle Franck Veracaza, il habite à Lyon. Et à l'époque, je lui ai dit, viens, on va prendre une bracha. J'étais assez proche du Rav, viens, on va prendre une bracha du Rav. Ok. Alors, on tape chez le Rav, la porte s'ouvre. On entend plus, comme ça, un chuchotement. J'ai compris que c'est le Rav, il est en train d'étudier, il répète les choses, il est en train de dire, par cœur, de répéter sa souga, ses pages de Gemarot. Il veut pas, alors oui, il ouvre comme ça. Et il nous fait rentrer comme ça, en parlant comme ça, nous fait rentrer. Bon, on s'assied, Franck s'assied, tout ça. Et le Rav disparaît quelques minutes, une ou deux minutes avant de venir. Alors, tout coup, Franck me dit, il est où le Rav? Pourquoi il est où le Rav? C'est lui qui nous a ouvert la porte. Lui? Moi, je crois que c'est le sous-fifre. Comme ça, il m'a dit, citation, le sous-fifre du Rav. Pourquoi? Il a l'air de rien. Je croyais que c'était le chamache, d'accord? Rien de rien. On a vécu près d'un homme, on se rendait. Moi, je regardais, je savais, j'avais entendu tout le pouvoir qu'il avait. J'aurais essayé de voir, de le scanner. Qu'est-ce qu'on voit de spécial? Une seule chose, la simplicité. Rien. Un type, tout normal, il faisait des voix, il rigolait. Très simple. Mais, c'est ça, arrivait à cacher sa grandeur, pas à faire. D'accord, tu vois, le. Il y a des photos de lui dans ta jeunesse, il n'avait même pas de barbe. Il se rasait la barbe. Après, il avait une barbe très à la fin de sa vie, quand il était déjà presque complètement impotent, le pauvre, la fin de sa vie était très très mal. Alors, ses enfants, son fils, ça fait qu'il avait une grande barbe. Mais de l'époque où je connaissais, comme ça. Grand maximum, c'est même long ce que j'ai. D'accord? Rasé de court. Pas montrer qu'on est des grands, montrer qu'on est des petits. Plus tu te fais petit, plus tu es grand. Histoire encore bien plus grande. On parle de Otto Haïch, cet homme-là qui a été crucifié il y a 2000 ans, qu'un jour il a vu un infirme, il a dit « Lève-toi », il s'est levé. Vous connaissez cette histoire-là? Un infirme, quelqu'un qui peut pas bouger. D'accord? Un homme qui était complètement paralysé, il a dit « Lève-toi », il s'est levé. Messieurs, pas il y a 2000 ans, que je ne sais pas, même pas si ça a eu lieu cette histoire-là, on raconte, d'accord? À notre génération, à Rav Ben Sion, deux fois, il a fait ça. Première fois, c'est un cas que je ne connais pas personnellement, mais il est marqué dans les livres, qu'un élève est venu vers le Rav, lui a dit, le Rav Yehuda Tzadka, non, il lui a dit comme ça, il lui a dit, Kvod Rav, on raconte sur vous que vous avez fait une bracha à quelqu'un qui était paralysé, et il se levait. Il a dit oui. Alors là, il est encore plus étonné, parce que le Rav disait toujours non, d'accord? Il cachait. Comment ça se fait que vous dites oui, même si c'est vrai? D'habitude, il dit, le Rav Yehuda Tzadka m'a dit qu'il fallait que je le dise pour qu'il y ait du Kiddush Hashem, pour qu'il y ait sanctification du nom de Dieu. Et moi, je connais un cas personnellement, dans mon collège, il y avait un Baal Tshuva, qui était dans Seyret Malka. Seyret Malka, c'est l'unité de commando la plus élevée de l'armée, la plus... l'unité commando de l'état-major. C'est eux qui font toutes les missions les plus spéciales, tout ça, habillé en civil, dans à l'étranger, tout ça. Et un jeune homme, qui a fait Tshuva, il est venu à l'Eshiva, avec une grande barbe, un chapeau, il a la Torah. Et il a un fils, l'Olechem, qui était paralysé. Paralysé depuis sa naissance. Il s'appelait Vaiden, cet ami au collège. Et il a mis son fils qui avait 5 ans, Shor Ben Sion, comme je lui dis, viens, lève-toi. Je peux pas. Lève-toi, viens me faire une bise. Le gosse s'est levé, il a fait une bise. Et dès lors, il marchait. 3 semaines plus tard, il est tombé, et aujourd'hui, il marche encore, mais en boitant. Alors, Ben Sion a dit, c'est le Aïnara. Tout Jérusalem en parlait, tout ça, ils ont fait Aïnara. Du coup, aujourd'hui, il marche. Un cas qu'on a connu personnellement. À notre génération, monsieur, pas... Il y a 2000 ans qu'on ne sait même pas si ça a eu lieu. Un jour, un avraire est venu voir le Rav Ben Sion, lui dire que sa femme avait un certain problème. Et le Rav lui a dit, il y a un truc, donc une bénédiction qu'on fait sur la lune une fois par mois. Alors il y a un passage qu'on dit, « Veloch et Tafkidam, ils ne changeront pas leur fonction. » À ce moment-là, tu diras la formule que je te dis. Il lui a dit une sorte de formule comme ça, tu rajouteras ces mots-là, et tout ira bien. Il a fait ça, et de façon miraculeuse, le problème a été réglé. Quelques années plus tard, le problème est revenu de nouveau. Bon, lui, il connaît déjà le truc, alors il a fait Birkat Elvana, il a dit la formule, et rien s'est réglé. Alors, il est allé, je vais apporter sa voix. Bon, alors, Ben Sion. Alors, Ben Sion n'était pas là, il est parti à l'étranger. Alors, il est allé voir le Rosh Yeshiva, le Rav Yehuda Tzadka, qui était le meilleur ami du Rav Ben Sion. Il lui a dit, Kvod Harav, il y a quelques années, il y a eu un problème X, Y, Z, et le Rav Ben Sion m'a donné une formule à dire dans Birkat Elvana, et j'ai fait, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rav Yehuda Tzadka lui a dit, tu crois que c'est le truc? C'est la formule qui t'a donnée. C'est le Rav, il a prié pour toi. Et c'est ça qui a fait la formule, c'est pour cacher. Il veut pas qu'on croit que c'est lui. Alors, il a caché comme ça. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Il n'est pas là, le Rav. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, vous priez pour moi. Non, mais moi, je ne suis pas prié comme le Rav Belgique. Je ne peux pas prier. Kvodara, priez pour moi, priez pour moi. Mais je ne peux pas. Prier. À la fin, il a vraiment insisté. Le Rav a prié. Et le mois d'après, il a fait le truc, et ça a marché. Deux grands d'Israël. Le Rav Ben Sion considérait le Rav Yehuda Tzadka comme Gdol Israël, comme le grand d'Israël. Quand le Rav Tzadka est décédé, il a dit, qui maintenant va protéger la génération? Je me souviens que quelques jours avant le décès du Rav Yehuda Tzadka, j'ai eu la chance de manger à Sukkot chez le Rav Ben Sion. Et dans Birkat Amazon, c'est un truc du Rav Ben Sion, il faut savoir ça, c'est un truc qui peut être utile. Parce que j'avais un de mes rabbins, mais c'était aussi un élève. C'était le seul élève ashkenaz du Rav Ben Sion. Quand j'avais un rabbin qui s'appelait le Rav Fried, qui était un grand gaon, mais c'était un chassid du Rav Ben Sion. C'est rare, c'est très souvent des ashkenazim qui ont, des sfaradim qui ont comme rave un arabe ashkenaz. Mais c'est très rare quand t'as des ashkenazim qui ont comme un rave un rave sfarad. Lui, c'était un des seuls qui était un grand chassid du Rav Ben Sion. Et le Rav Ben Sion, le Rav Fried, un jour, il a amené, il y avait un ami qui était malade, il a amené tout à coup un minyan. De jeunes gens, chez lui à la maison, ils ont mis une table, ils ont amené à manger, ils ont fait Birkat Amazon. Pourquoi? Le Rav Ben Sion lui a dit, quand tu fais Birkat Amazon, après tu as toutes les bénédictions à Rahman. Quand tu fais Birkat Amazon, c'est une très grande mitzvah. Mitzvah, c'est de la Torah, de Horaïta. Que nous, on fait comme ça, on croit que c'est rien, mais c'est rare, on n'a pas beaucoup de grandes mitzvahs de Horaïta tous les jours. T'as Tfilin, t'as Tzitzit, t'as Shema Israël, et Birkat Amazon, c'est une mitzvah importante. Et vu que c'est une grande mitzvah pareille, les brachot, après tu as un pouvoir de brachot. Alors, il lui a dit, c'est très bien, justement, d'aller chez ce malade, amener un minyan, faites Birkat Amazon, et dans Birkat Amazon, vous le bénissez. Ahman, Ushah, Refoua, il enverra Refoua à XXX, etc., etc. Alors, moi, j'ai vu de mes yeux le Rav Ben Sion, pendant son Birkat Amazon, comment tout à coup, j'ai vu se concentrer comme ça, et il faisait une prière très forte pour la Refoua de Rabbi Yehuda Tzadka. Dire que c'est un truc qui est, donc, des grands d'Israël de prier dans Birkat Amazon pour quelqu'un qu'on veut guérir ou autre chose. Bon, néanmoins, le Rabbi Yehuda Tzadka est décédé. Et le Rav Ben Sion à l'époque a dit, maintenant je n'ai plus de joie dans ma vie, je ne peux plus avoir de joie, c'est terminé. Il le prenait vraiment courant. Vraiment, c'était un des grands d'Israël. Rav Ben Sion, que je vous ai déjà raconté, il était très grand en Kabbalah. Mais, il ne faut pas croire qu'il est rentré dans la Kabbalah comme ça. Un jour, il a témoigné, il a dit, sachez que je n'ai pas ouvert un livre de Kabbalah avant que je finisse tout le chasse, toute la Gemara Bavli, Talmud de Babylone, et tout le Talmud de Jérusalem, Be'iyun, Iyun, ça veut dire pas haflafla, comme ça tu dis superficiel, profondément, les Rishonim, Achronim, tout le chasse. Après, il a commencé Kabbalah. Et de qui il a reçu? Des grandes générations de la génération passée, des élèves du Ben Israël, le Rabbi Son Chazan, le Rabbi Ephraim Cohen, le Rav Samuel Mutsafi, le Rav Samuel Mizrahi, tous les grands noms de Kabbalah, c'est de eux qu'il a appris la vraie Kabbalah, la grande vraie Kabbalah. Ça, je vous parle maintenant, il était énorme en chasse. J'ai un ami qui s'appelle Avjin, c'est un avraire, qui était très proche du Rabbi Son lui aussi. Un jour, le Rabbi Son rentrait dans le taxi comme ça, et il rentrait chez lui à la maison, et Avjin lui parle, et il dit, sache que je ne sais pas si dans la génération, il y a quelqu'un qui a peiné dans le Talmud comme Ben Sion. Il a parlé sur lui-même. C'est très rare qu'il parlait, d'accord? Il a dit, je ne crois pas qu'il y ait dans la génération quelqu'un qui a peiné dans le Talmud comme Ben Sion. Comme il parlait de lui-même. Donc c'était énorme, énorme en Talmud. Mais aussi énorme, on dit, énorme aussi, non seulement en Kabbalah, mais énorme aussi, sa grandeur connue, c'était pas ça, c'était pas dans le Talmud, c'était dans la Halakha. C'était un des grands poskim, un des grands décisionnaires. Donc il savait, il devait savoir Choshen Mishpat, Ebenezer, tout par cœur, sur le bout des doigts. Énorme, c'est inimaginable. Un temps, il a dit à ses élèves, ne croyez pas que quelqu'un, un Talmud Chacham, c'est quelqu'un qui a une réponse à chaque question qu'on lui pose. Telle question d'Alakha, telle question dans le Talmud, telle la réponse, non. Au niveau d'Alakha, un Talmud Chacham, c'est quelqu'un qui connaît, pour chaque question qu'on lui pose, il connaît 5 réponses. T'as l'Echatrila, t'as Bediavad, t'as Bshatatrak, t'as pour des hommes, t'as pour des femmes, t'as pour des gens d'étrangers, des gens de cité. Il faut être Chacham. Connaître la Torah. Pas simplement pouvoir déclamer pour chaque... Savoir d'où vient la halakha, quels sont les tenants et aboutissants, et en fonction pouvoir naviguer pour donner un psaque qui soit complètement juste. Il a dit un temps, tellement il avait l'amour de la Torah, il a dit je suis prêt à vivre 20 ans enfermé dans la cale d'un bateau avec les nausées, dans une odeur putride de putréfaction, si on m'assure qu'après ces 20 ans, je serai capable de l'echaven Torah à l'amita. De pouvoir dire la Torah, la vraie, vraie Torah de Dieu. Pas de l'à peu près. La vraie Torah. Qui serait capable de vivre un jour dans ces conditions? L'amour de la Torah qu'il avait, extraordinaire. Hein? Non, il était prêt pendant 20 ans, rester dans l'odeur sans étudier. Quand on lui promette qu'après les 20 ans, il saura la vraie Torah. Il était très, très... Yerushama, il avait très peur, et surtout, vous savez que comme dit l'Agmara, c'est marqué que si on a une caisse de péché, quel péché crie en premier, le plus fort de tous? Le vol. Le vol. Donc, il faut faire très attention de pas. Et le vol, c'est des questions de millimètres. C'est marqué din pruta, kedin mea, la loi qui concerne une pruta, une petite pièce de rien du tout, est la même loi qui concerne un billet de 100, d'accord, c'est la même. Ça, c'est du vol, ça, c'est du vol. Une plus grande somme, mais les deux sont du vol. J'ai très, très, très attention de tout ce qui concerne le vol, les biens des autres, etc. Donc, pour cette raison, il était de ce qu'on appelle Yireh Hora'a. Il avait très, très peur d'enseigner, de trancher en ce qui concerne les dîners Torah. Être un rabbin dans un tribunal rabbinique. Deux personnes viennent, ils ont un différent, il faut trancher. Qui a raison, qui a tort? Si tu te trompes, ben, c'est toi le coupable. Si ils t'ont trompé et tu pouvais rien faire, ok, alors c'est pas de ta faute. C'est déjà pas très bien, mais c'est pas de ta faute. Mais si tu pouvais mieux aller les interroger, mieux définir, mieux savoir, et tu t'es trompé, tu as innocenté le coupable et tu as culpabilisé l'innocent. Qui va payer pour ça? Toi? C'est marqué, le pire argument, c'est marqué que Dieu va pas demander aux Dayanim de l'argent, mais leur âme. Ça veut dire qu'il faut être... Donc il a toujours refusé. Il a dit, moi, Dayan, je veux pas. Un jour, le Rav Zotti, c'est le grand rabbin de Jérusalem à l'époque, est venu le voir, il a fait pression. Il a demandé un midrash dans lequel c'est marqué que toute la grandeur, la louange, la force, la vaillance de Dieu, du roi des rois, est Melech Ohev Mishpat, que Dieu aime la justice. Comme c'est marqué dans le début de Rosh Mishpat, que celui qui met la justice digne dans le monde, alors il est choutaf, il est associé à Dieu dans la création du monde. Parce que Dieu, il aime la justice, il faut que ce monde soit. Donc il était convaincu de rentrer. Est devenu un des grands Dayanim du peuple d'Israël. Une fois, il y avait une femme avocat qui a dit à quelqu'un d'autre que je connais, qui lui a dit, j'étais une fois en dîner avec Rabbi Sion, c'est extraordinaire. Donc, non seulement, tous les arguments que je veux dire, il est fait à l'avance, mais j'allais encore rajouter une autre chose, et même si vous dites ce que je pensais aller dire, Et déjà, il a la solution. Rabbi Sonnen a dit, c'est pas très gentil pour les avocats, mais je dis quand même. Il a dit, c'est quoi un avocat? C'est un grand menteur. Plus il est grand, comme avocat, plus il sait mieux mentir. Alors qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous fatiguent. Nous, on sait qui a raison. Mais il faut maintenant aller faire des spirales dans l'air, comme ça, pour arriver à lui prouver où est son mensonge. Il nous fatigue. Un jour, il était au Beddin, il se levait, devait aller aux toilettes. Il se lève, et il y avait un couloir. Il arrive aux toilettes. Il passe dans le couloir, tout d'un coup, un des deux jugés se lève, allume la lumière. Parce que dans le couloir, il faisait un peu sombre. Le rave, il s'est arrivé comme ça, il dit, éteins tout de suite, je ne sais pas qui c'est. Pour pas qu'il y ait du chochad, qu'il n'y ait pas du pour de vin. Un des deux allumait la lumière au rave. Donc, déjà, quelque part, il y a plus de sympathie pour lui. Et ce ne sera pas un din impartial, ce ne sera pas un noir impartial. Une très belle histoire. Un jour, il était au Beddin. Et il y a deux personnes. Un, c'est un monsieur assez riche, qui a beaucoup de biens. Et l'autre, un pauvre, un Baal Tchouva, qui raconte l'histoire suivante. Qui dit, voilà, moi je représente maintenant une personne qui ne veut pas se montrer, je suis son représentant ici. Il m'a demandé de le représenter ici au Beddin. Cet ami, ce monsieur que je représente, on va l'appeler X, a fait Tchouva. C'était avant un voleur. Et un jour, il a cambriolé la maison de ce riche monsieur. Alors, je me suis dit, oui, c'est vrai, en cette année-là, on m'avait cambriolé. Maintenant, je suis devenu Odin, envoyé par monsieur X, pour essayer de trouver un moyen de s'arranger pour... il a fait Tchouva aujourd'hui, X, il n'est plus cambrioleur, il est... Et il demande maintenant à faire un jugement avec le volé, le cambriolé, pour arriver à un arrangement. Bon, et les deux discutent comme ci, comme ça. Au bout d'un moment, alors Benson, il dit au représentant, ok, sors un moment. Et il dit au riche, écoutez, le voleur, c'est lui. Maintenant, je vous donne deux solutions. Ou bien, on fait, il vous rembourse tout, mais on fait ça échelonner sur quelques années, parce qu'il ne pourra pas, il n'a pas d'argent. Alors ça sera 100 euros tous les mois. Ou bien, il ne vous rembourse rien, vous pardonnez, et moi je fais une bracha. Vous avez une minute pour réfléchir. Et réfléchir, moi je préfère la bracha. Ok, Baruch, tu es béni. Faites l'entrée. tu diras à ton ami qui te représente que le monsieur, il a excusé, et dans ta chaîne, que tout allait bien, qu'il fasse une bonne choua. 3 ans plus tard, le type, il a gagné le premier lot à la loterie. Tu es béni, hein? Le petit tu es béni que leur ami l'a fait. Force de bénédiction extraordinaire.
Comment il a su que c'était le voleur?
Comment il a su? Il voyait tout. Un jour, Motzek Yom Kippour, un homme avec son fils qui a 6 ans vient voir le Rav pour demander une bracha, Motzek Kippour, etc. Le Rav mangeait des gâteaux, c'était juste après le jeûne, il mangeait quelques gâteaux comme ça. Il dit au gosse, viens, prends un gâteau. Le gosse souffre d'une maladie, il ne peut pas manger tout ce qui est farineux, le gluten, il ne peut pas. Il prend ça, il va à l'hôpital direct. Il dit, non, Kvodarev, il ne peut pas, il souffre de gluten, il ne peut pas. Mange. T'en fais pas, il n'y aura rien. Mange. Il a mangé. Dès ce jour, la maladie a disparu. Un jour, mes parents étaient Jara Ben Sion à Pourim. Et mon père m'a raconté. Tout coup, il voit un chassid qui vient et qui se met à danser le Jara Ben Sion. Et il danse, et il danse, et il danse. Alors, il demande au Jara Ben Sion, qu'est-ce qu'il a celui-là? Jara Ben Sion lui dit, demande-lui. Alors, mon père, qu'est-ce que... Pourquoi vous venez, assis, Jara Ben Sion, pourri? Vous êtes à côté de qui vous êtes assis? Mon fils est aveugle. Rien à faire, il me semble dire rien à faire. Après quelques années, je l'ai amené Jara Ben Sion, il a béni. On prend la route du Jara Ben Sion, on part en voiture, on rentre chez nous à Bnei Brak. Et sur la route, mon fils dit, papa, je peux lire le numéro de la plaque en face. Comment je vais pas danser? Il se remet à danser. il souffrait énormément, le Rav Ben Sion. Un Zel m'a dit, il n'y a pas, disons en exagérant, j'imagine, il n'y a pas un organe chez lui qui fonctionne comme il faut. Il a eu une crise cardiaque, il était hémiplégique, il avait du diabète. Une fois, il est revenu en cours, il a dit, vous savez combien j'ai souffert aujourd'hui? Combien peut faire souffrir un bouton? J'ai passé une... Il était hémiplégique, donc il avait une main qui était complètement paralysée. Pendant une demi-heure, j'ai essayé de boutonner mon bouton. Une demi-heure de souffrance. Et on ne se rend pas compte, c'est quoi? Sa plus grande souffrance, c'était qu'il ne pouvait plus étudier avec la même ardeur qu'il avait. C'est quand même hémiplégique, il était déjà beaucoup, extrêmement limité. Un jour, il a dit, pourquoi vous souffrez tellement? Il a dit, si je ne souffre pas, les autres vont souffrir à ma place. Donc, lui, il a pris sur lui beaucoup de souffrance du peuple d'Israël, énormément. Les gens sont venus le voir une fois, il lui a dit, bénissez-nous, je ne peux pas. Si je vous bénis, je devrais prendre encore plus de souffrance et je ne peux plus, je suis arrivé à mon... Une fois, il a eu une semaine terrible, lui et sa femme, dans les hôpitaux. Toute la semaine, tourbillon d'hôpitaux. Shabbat, sa sœur vient le visiter, il lui dit, Kvodara, qu'est-ce que c'est ça? Combien de souffrance? La semaine passée, une femme vient me voir. Mon une bracha, elle n'a pas d'enfant. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas d'enfant, elle veut une bracha. Moi, j'ai tout su qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfant. C'est marqué dans les livres que des fois, il y a une réincarnation d'un homme dans une femme. Un homme qui vient réincarner dans une femme ne peut pas avoir d'enfant. À moins qu'il y ait un mérite terrible. J'ai vu qu'elle ne pouvait pas. Alors, je n'ai pas béni. Le Rav, il s'en sortait des fois. Il fallait connaître le truc. Des fois, quelqu'un vient le dire, Kodarav, refoua pour X fils. Il dit pour X fils. Il ne disait pas le mot refoua. Ce n'est pas la bénédiction. Parce que pas toujours, il pouvait faire la bracha. Quelqu'un qui, comme moi, où on fait une bracha, ok, on perd rien. Mais quelqu'un qui sait quand on fait la bracha dans le ciel, alors on prend chaque mot qu'il a dit. Et des fois, il sait que s'il prend la bracha, il révolutionne des choses. Ça a été fixé comme ça. Et toi, tu viens, tu changes, tu peux pas. Et s'il dit oui, alors Dieu, en quelque sorte, il est obligé, c'est marqué qu'un tzaddik décrète, Dieu exécute. Et on lui demande une facture. Ah, je n'ai pas béni. La femme, au milieu de la rue, m'a attrapé comme ça mon frac, les bouts de mon veston. Elle m'a dit, Kvodarav, elle explose en sanglots. Elle dit, je ne vous lâche pas tant que vous me promettez que j'aurai un enfant. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, j'ai béni. Il a béni. Il a eu un enfant. Mais il y a une semaine de souffrance terrible. Ça marche. Mais il faut payer. T'as fait maintenant. T'as changé tout là. On va aller payer. 1 million. Et il souffre. Une fois, de mes yeux, j'ai vu. C'était extraordinaire. On était à Pessah. Et un groupe. Mes parents ont voulu prendre un groupe de gens qu'ils connaissaient. Et je suis venu avec eux aussi. C'est le Rav Ben Sion. Parmi ces gens-là, il y avait une fille qui était une dévergondée. De premier ordre. Pour venir chez le Rav, elle a mis une jupe longue qui est arrivée au-dessus du genou. Elle dit c'est la première fois de sa vie qu'elle n'a pas de mini-jupe. Première fois de sa vie qu'elle n'a pas une mini-jupe. Elle est là, le Rav est là, elle est assise comme ça. Et le Rav fait des bénédictions parce qu'on lui demande, et tout d'un coup la femme de Rav demande une bracha. Fais-lui une bracha pour qu'elle ait un mari. Moi j'étais en face comme ça, et là. Alors il ne répond pas. Il ne va pas faire la bracha, c'est une dévergondée. Ben Sion, il fait comme ça, sa femme. Bénis-la. Le Rav, il ne sait pas quoi faire, il est comme ça, et tout le monde là qui est autour. Ben Sion, bénis-la. À la fin, il a béni. Pour sa femme, qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Kvod Aisha. Une fois, il y avait un vieux monsieur qui avait la sale maladie, Chassé Shalom. Ses enfants sont venus demander une bracha pour leur père. Alors, le Rav Ben Sion dit, amenez votre père. Et le père, il vient, il dit, écoute, je suis malade, j'ai la maladie, c'est terrible. Il dit, je te fais une bracha maintenant, et voilà, plus de maladie. Oui, mais écoute, Rav, je suis malade, les médecins, ils ont dit, t'as pas compris? Et parti, ma, tu vois, regarde, là, parti, comme c'est le... Et vraiment, elle est partie. Un ami à moi, Peniel Rahman, raconte au collel, il était au collel avec nous. Sa fille était à l'hôpital. Et les médecins voulaient faire, elle avait beaucoup de fièvre, et voulaient faire une, qu'on appelle ça dans le dos, une ponction lombaire. Bon, c'est une opération bénigne, mais bon, c'est pas agréable. Avant de faire, appelle le rabbin, pas besoin, sors de l'hôpital. Il va voir les médecins disent, quoi, sors de l'hôpital, elle a 39,5 de fièvre, impossible. Le rabbin dit de la sortir. Écoutez, appelle le rabbin et vérifie bien. Le rabbin dit, je t'ai dit, tu peux la sortir, aucun problème. Bon, il a fait une décharge de responsabilité, et le médecin, qui était un religieux, a dit, je comprends pas. Quand on a un poulet, on a une question maintenant, s'il est taref ou pas. On va chez le rabbin, il regarde le poulet, et il dit, taref ou cachère. Le rabbin n'a même pas vu la fille, il n'est pas médecin, il n'a rien, comment il fait une chose pareille. Le rabbin a dit, on la sort, le lendemain matin, plus de fièvre, tout terminé. Alors, je racontais l'histoire du petit gosse qui a mangé des gâteaux et qui était guéri de sa maladie. Un jour, on était, ma famille, avec des proches familiaux, Charles Benson aussi à Soukhot, et une dame très proche dans ma famille avait des maux de ventre terribles. Et bien sûr, pour honorer, Charles Benson, c'est pas un petit plat, c'est un plat qui est... Il faut avoir de l'appétit pour le manger bien. Elle voit ça, elle dit, absolument, je peux absolument pas manger ça. Moi, j'étais gêné, parce que c'était la belle fille du rabbin qui avait fait tout le repas, tout ça. Et c'est une dame très honorable qui était là, à qui on a donné à manger. Et le fait qu'elle ne mange pas, ça gênait un peu. Alors, Ben Sion, il dit, mangez ça, vous aurez plus... Elle avait une maladie de plusieurs mois, mal au ventre. Mangez ça, vous n'aurez plus rien. Et moi, je lui dis, mange. Le rabbin dit, tu n'auras plus rien. Dit, non, je ne peux pas. Elle n'a pas mangé. Elle a continué encore des mois avec sa maladie. Dommage que... Des fois, on ne se rend pas compte, on croit, c'est juste par politesse. Le rabbi dit, mangez, vous n'aurez plus rien, c'est de la rigolade. Une bouche kadosh, une bouche sainte. Des fois, il guérissait, des fois, il ne guérissait pas. Je lui ai raconté déjà que ma belle-mère est décédée il y a 16 ans de cette maladie, un cancer de l'estomac, et il voyait, et il n'a pas pu guérir, c'est pas toujours. Je lui ai demandé, 3-4 mois auparavant, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on en pensait. Mais tzarech rahamim merubim, il faut beaucoup, beaucoup de miséricorde. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il faut beaucoup, beaucoup. Quoi. Et nous, qui on n'est pas beaucoup du tout. Je me souviens qu'environ un an et demi avant que ma belle-mère décède, on avait rencontré mon beau-père. Et c'est marqué dans la Kabbalah, hein, dans le mystique de Rabbi Noari, qu'on peut voir sur le front de quelqu'un, on peut tout lire. Et qu'il y a des lettres comme ça qui se mettent à éclairer à l'envers, à l'endroit, à grande, petite, et les gens qui savent lire, ils voient. Bon, moi j'ai essayé souvent, je ne vois rien du tout, d'accord. Mon beau-père m'a raconté qu'il était très gêné parce que pendant 5 minutes, la robe comme ça, l'a regardé dans le front, sans rien dire. Il était gêné au bout d'un moment, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il avait, voilà, d'accord. 5 minutes comme ça, il l'a regardé. Moi je pensais dû voir tout à l'avance, qui, quoi, comment, que bientôt. Bon. Voilà, comme je l'ai déjà raconté la dernière fois, la robe disait, si vous croyez que c'est pas facile de voir. C'est pas facile de voir. Quand tu vois tout et tu dois rester sympathique avec les gens et les encourager. Je me souviens même pour sa propre femme, l'année où elle est décédée. À Rosh Hashanah, je suis avec mon père, c'est le Rav Benson. C'est très proche du Rav Benson. Mon père aussi, surtout mon père, le Rav Benson adorait mon père. Et on est rentré chez Rav Benson, je lui ai dit, Machom Rav, comment ça va? Il y a Rav, le Rav ça va, mais l'Arbanite, ça va pas. Comme ça, il a dit. Moi, je comprends tout ce qu'il voulait dire. Juste après Rosh Hashanah, c'est le jour du din, qu'elle a dû voir déjà qu'elle finissait pas l'année. Et la même année, effectivement, elle a pas fini son année. Et le Rav, il voit, c'est pas des choses faciles à vivre. Un jour, auparavant, on va dire comme ça, le Rav Ben Sion, il a eu un seul garçon, Rabbi Eliyahu. Il a eu une petite fille qui est décédée à l'âge de 1 an, à part ça, il n'a eu qu'un seul garçon. On dit que sa femme a fait 17 fausses couches. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle en a fait énormément, parce qu'elle essaie d'avoir des enfants. Et le Rav, je pense que par la souffrance qu'il a eu au niveau d'avoir des enfants, elle était spécialiste dans tout ce qui a à voir avec tomber enceinte, la grossesse, les naissances. Il avait un pouvoir spécial là-dedans. Une de ses nièces, une fois, a accouché, et l'enfant est sorti, Baruch HaShem, sain et sauf. Mais les médecins ont réussi à se trouver in extremis, le cordon ombilical avait fait 8 fois le tour de son cou. 8 fois le tour de son cou. Le père de la fille, le frère de Rav Ben Sion, il lui a dit, quoi de Rav, tu fais rien? Ma fille, elle a failli, le gosse, elle a 8 tours. Tu crois que je vais faire rien? Pourquoi elle est sortie vivante, tu crois? Une fois un coup vient en pleurs, voir le Rabbi Tzion, la femme est enceinte, le cours d'arabe, on a une autorisation de faire une fausse couche, un avortement. On a fait un ultrasonde, qu'on appelle ça en hébreu une échographie, et il est en pleurs, elle expose en pleurs la femme, elle dit mon fils, il a 3 pieds. Le Rabbi rigole, il dit aux médecins qui sont trompés, il a 4 pieds, votre fils. Alors elle était encore sidérée, pour que le ravi rigole, il n'y a pas de quoi rigoler. Pas d'autorisation, vous continuez la grossesse, pas d'autorisation de faire un avortement. Et Baruch HaShem, elle a eu 2 enfants, des jumeaux avec 4 pieds. Une dame qui était dans un séminaire il y a 15 ans, qui fait tchouva là-bas, elle était mariée avec un non-juif et 3 enfants, et Baruch HaShem, après le séminaire, elle a quitté. Et évidemment, dans ces conditions, c'est pas facile de se remarier. Elle est venue quelques mois plus tard en Israël et je l'avais chez le Rabbi Tzion. Alors, j'étais comme ça, on va dire. Le Rabbi Tzion était en face, elle était près de l'entrée, comme ça. Du coup, là, voilà, cette femme-là, elle a fait un acte très courageux, elle a quitté le goy avec 3 enfants, etc. Et alors, il faut. Achatan. Le Rabbi fait comme ça une seconde, même pas comme ça, elle a un achatan. Je n'ai même pas compris ce qu'il me disait. Le Kvod Arabe, voilà, la pauvre, il le faut. Il ne répond plus. J'ai rien compris. Bon. On redescend chez Robinson, dans l'ascenseur, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai dit, il paraît, j'ai rien compris. Il m'a dit que t'es un khatan. Il a raison. Quoi, il a raison? Ben oui, je t'ai pas dit, mais voilà, il y a quelqu'un, ça fait 6 mois qui me court derrière, et moi je veux pas. Mais je pense que s'il arrive, il a dit que c'est ça, alors ça doit être lui. Et aujourd'hui, Baruch HaShem, ils sont mariés, lui avait 7 enfants, elle avait 3, aujourd'hui ils sont encore ensemble, ils sont en vacances, je sais pas, Baruch HaShem, ensemble. Même pas un demi-regard. Il voyait les péchés. J'ai vu des gens que j'aime chez Robinson, ils ne regardaient pas. Ils ne regardaient pas. Parce que le péché, c'est une chose qui touche quelqu'un qui voit. Ça lui fait mal et ça le touche bien. C'est pas qu'on n'a pas le droit de voir la tête d'un rachat, on n'a pas le droit de regarder. Un rachat, bon, je ne sais pas. Soit un rachat, un mécréant. Qui est mécréant, je ne sais pas. En tout cas, si le Rav vient, tu vas le voir, il te regarde pas déjà, tu comprends qu'il faut faire tchouva. Il y avait un bas tchouva qui avait la chance, c'était lui toujours qui amenait le Rabbi Tzion, il donnait un shiur le Shabbat, l'après-midi, dans la synagogue Oel Rachel, dans le quartier boukharien. Et c'est lui qui, c'était très proche de Rabbi Tzion, c'est lui qui amenait le Rav, le Rav il boitait, il l'amenait comme ça, il tenait la main pour rentrer. Alors un jour le Rav arrive près de la synagogue, il vient, le jeune homme justement pour lui prendre la main, il dit, t'es marié, ça ne suffit pas ta femme, il faut que tu regardes encore d'autres femmes. Le type, il a compris sur place que, regardez un peu à gauche, à droite. Il va de côté, il dit, il regarde. Il entend la voix du rap qui l'appelle. Où es-tu? Où es-tu? Viens, viens. À la seconde, Tchouva le rap voit et le prend. Une femme vient le voir. Ça fait 9 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Bon, bracha. Pour avoir des enfants. Je comprends pas, madame. Vous êtes enceinte. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Un jour, elle me dit, comment vous savez? Elle dit, vous ne voyez pas? J'essaie depuis beaucoup de voir comment une femme enceinte. Est-ce qu'on voit une différence? À part le ventre, je n'ai pas encore réussi à voir, mais le Rav, il s'étonnait qu'on ne voyait pas qu'une femme était enceinte. Je pense qu'elle a un regard un peu plus brillant, un peu plus comme ça. Mais elle ne savait même pas qu'elle était enceinte encore. Bon, c'est des choses que nous ne voyons pas. Un jour, le Rav Tzion était chez des gens, et la maîtresse de maison vient chez le Rav et demande une bracha pour que sa fille ait un garçon. Elle tombe enceinte, qu'elle ait un garçon. Le Rav fait la bracha. La femme a compris tout de suite que le Rav vous êtes trompé. C'est pas pour moi que je la bracha, c'est pour ma fille. Ok, alors toi aussi t'es béni, amenez-moi la fille. Non, mais la fille a fait la bracha. Après, il a dit, est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'une mère et une fille, les deux tombent enceintes et accouchent en même temps? Pas de problème. 9 mois plus tard, la même semaine, la fille et la mère ont amené un garçon au monde. Un jour, un avrech qui n'avait que des filles, il avait 5 filles, venu voir le rave, il dit, quoi le rave, je vais me rendre bracha pour des garçons. J'ai 5 filles. T'as 5 filles? Alors, t'auras 5 garçons. Après, donc il a eu 4 garçons. Cette femme est tombée enceinte une 5e fois. Et le Havre a rencontré le fils de Rav Ben Sion. Il lui a dit, tu sais qu'au Darav, il y a quelques années, j'ai pris une bracha du Rav, il m'a remis 5 garçons. Ma femme est enceinte maintenant une 5e fois. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. J'ai aucun doute que ce sera un garçon. Effectivement, ce fut un garçon. Je vous raconte une histoire qui est arrivée avec moi-même. C'était en 1990. J'ai passé tout le Pessah avec le Rav Ben Sion. À l'époque, j'avais un garçon et 2 filles. Et durant toute la fête, tout le monde passe, prend des brachot. Et moi, un peu gênant, je ne veux pas. À la fin, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit, pourquoi tout le monde prend des brachot et moi je ne veux pas. Je ne veux pas, pas d'arabe, moi aussi je veux une bracha. Bon. Un jeune homme comme moi, idiot comme j'étais à l'époque, qu'est-ce qu'il demande? Bracha, grandir en Torah, Yirat Shamayim. Il me dit, Yiratson, que tu aies beaucoup de garçons. J'ai déjà un garçon et je ne vous dis pas qu'est-ce que j'ai suivi, d'accord? Alors je lui ai dit, c'est pas ce que je voulais. Je lui ai dit, non. Il s'est tu. Depuis, j'ai eu que des filles. Que des filles. Un garçon, 7 filles. Ça, c'est... Voilà. Une parole. Une parole que moi, j'ai dit. J'ai senti. Il s'est tu. Tac, comme c'est... On avait coupé le... Voilà. Quand un rabbin fait une bracha, il faut dire amen. Quoi qu'il dise. Il sait ce qu'il dit. Un jour, on demande une bracha. Une jeune fille vient et demande une bracha pour elle-même. Alors, il a béni. Il a béni Hadassa, Bat, Hadassa, fille de X. Elle lui dit, mais je ne suis pas Hadassa. Il ne répond pas. Alors, elle ne répondait pas, on sait que... Elle va, elle raconte à sa mère, elle dit, c'est bizarre. J'étais genre à Rav Ben Sion. Il m'a béni. Et moi, je lui ai dit, Michal, comme j'appelle. Il m'a dit, Hadassa. Ben ouais, ben, figure-toi que le Rav, il voit ce que... Tu ne sais même pas toi. Quand tu es né, tu es né à l'hôpital Hadassa et nous on aimait beaucoup ce nom-là, on t'appelait Hadassa. Après quelques mois, on a ce nom un peu, on ne trouvait pas très bien, on t'a changé de nom. Mais ton vrai nom, c'est Hadassa. Le Rav, il a vu le nom. Une fois, on lui a demandé une bracha pour quelqu'un, il commence à bracha, il dit, c'est pas le vrai nom. Vous êtes trompé dans le nom. Comment il voyait bien? Je me souviens, moi-même, une fois, on était avec lui à la synagogue où il enseignait. Et tout coup, il y a une dame à la porte. Moi, je vais. Elle demande, est-ce que Rav Ben Sion, il est là? Il dit oui. Demande une bracha pour mon fils. Demain, il fait une opération très difficile. Il faut, et j'ai vu que la pauvre était vraiment très, 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 très paniquée. Demande une bracha pour le Rav. Ok, elle part. Moi, je vais demander au Rav. Voilà, il y a une femme qui est venue. Son fils fait une opération demain. Voici le nom. On leur fait une bracha et puis. Elle est là, appelle-la. Je crois qu'elle est partie. Va voir. Je fonce dehors. Je vais dans la rue. Je regarde de gauche à droite. Plus rien. Et le Rav, elle n'est pas là. Miskina. Elle était comme ça. Il était. Bon, je ne sais pas au courant de ce qui s'est passé, mais j'imagine qu'il a vu que bon, c'était bloqué, quoi. Non, encore une fois, on n'est pas. Il y a des cas où il peut, des cas où il ne peut pas. Une fois, un jeune homme lui a amené un étroc qu'il avait acheté pour voir si. Bon, étroc, très bien, cachère, mais je vois autour sur l'étroc beaucoup de choses pas très bien. À mon avis, c'est pas bien que tu le prennes, va, rends-le au marchand. Et alors, je le marchand pour le rendre. Il voit qu'un type arrive, il dit, c'est toi, pourquoi, il dit au marchand, pourquoi t'as vendu les trocs que t'avais commandé? Le Rav a vu déjà que sur les trocs lui-même, il y avait des problèmes. Alors ça, chez Abba Shaoul, la famille, c'est un truc connu de la famille. Tout ce que les gens ont mis les yeux dessus, ils ne prenaient pas. C'est-à-dire, si quelqu'un va, on va au magasin, et il y a un beau truc, et une dame, Madame Abba Shaoul veut le prendre, mais il y a une autre dame qui voulait le prendre, elle le prenait. Il ne voulait pas ce que les gens ont mis les yeux dessus, d'ailleurs... Vous savez qu'Aïnara, bon, il y a des gens qui y croient plus ou moins, le Rav Ben Sion, il disait, bien sûr que ça existe. Il m'a raconté une fois qu'ils avaient reçu chez eux à la maison un nouveau frigo, un beau nouveau frigo. Et une classe entière est venue du sud, tout ça, passer dans leur maison. Et ils ont visité toute la maison, tout ça, passé par la cuisine, toute une classe entière. La classe sort de chez eux, ils ferment la porte, du coup, le frigo, poing, tous les caps qui sortent, tout. Un nouveau frigo. Chez la maison, il y avait une hamsa, il y avait un 5 comme ça du contre le Aïnara. Donc, c'est pas non plus qu'il faut rentrer en panique, mais c'est une chose qui existe et il faut savoir. À propos de Aïnara, à quel point le Rav il était sensible aux yeux. Je voudrais une histoire personnelle que j'ai racontée très très rarement. Il priait dans un minyan Ashkenaz en bas de chez lui. Et en bas de chez lui, enfin, un peu à côté. Lui habitait au 16, c'était au 18. Rav Sorotskin. Et un matin. Je suis parti, j'ai une question à lui poser. Il était encore en prière. Et moi, je voulais voir comment il prie. Comme ça, je voulais... Alors, il y avait une sorte de... C'est une synagogue un peu délabrée, donc il y avait le mur, puis à un moment il y avait un trou dans le mur, puis ils ont mis la place, ils ont mis une planche. Puis dans la planche, il y a un petit trou. Alors je regarde le petit trou comme ça, et j'espère le rabbin Sion comment il fait. Alors je vois, il était comme ça, et dès que je regardais, il fait un mouvement terrible comme ça, qui est en train de le regarder? Moi, tout de suite, je enlevais mes yeux, d'accord? Mais il ne pouvait pas me voir, c'était impossible. Il a senti que quelqu'un le regardait. C'est une hypersensibilité extraordinaire. Moi, j'ai terrorisé, j'ai eu la réaction. Il a fait comme ça. Alors, Benson, il a dit que s'il est venu dans ce monde, rien que pour les Talmud et Torah, alors ça lui suffit. C'est quoi? Il a dit comme ça, j'ai fait deux grandes choses dans ma vie. J'ai ématé Talmudim, j'ai mis sur pied des élèves, et j'ai créé le Rechet, la chaîne des Talmud et Torah. Il y a environ une quinzaine d'années, Rav Ben Sion et d'autres rabbanim ont décidé, ils ont dit comme ça. Ils ont dit le peuple d'Israël va à la dérive. Bon, j'aime beaucoup de gens qui font tchouva, mais pourquoi attendre que les gens vont tordus puis après les ramener? Mieux vaut faire qu'ils poussent tout droit. On va créer des Talmud et Torah pour les Sfaradim. On recevra toutes les familles Sfaradim qui ont une racine comme ça. Et bah, Rachel, comme ça, il y aura beaucoup de. Après, ils vont grandir tout droit. Il y aura beaucoup de Talmud Harim, beaucoup de gens qui seront dans la Torah. Et ils ont créé ce Rachel, cette chaîne de Talmud Torah. Il leur avait été un grand chassid, un grand fervent de cette grande mitzvah-là. Et il a dit un jour qu'à Kiryat Shmona, il n'y avait aucun Talmud Torah. Et à Kiryat Shmona tombait des katushot du Liban. Des années, tous les mois, pouf, un katushot qui tombait, des fois des morts, des fois des blessés, des fois rien du tout, mais des katushot. Il a dit, depuis le jour où on a monté le Talmud Torah, à Kiryat Shmona, plus un seul katushot est tombé. On appelle ça un bouclier aérien de Torah. Jusqu'à la dernière fois où ça a recommencé, c'était la guerre du Liban, il y a un an. Où qu'on dirait qu'il y a trop de péchés, et Amisa doit faire tchouva pour empêcher qu'il y ait encore des katushot qui reviennent. Dernière chose que je vais vous raconter pour aujourd'hui, avant la prochaine fois, au niveau de la Kabbalah. Les gens, très souvent quand ils font tchouva, ou même quand ils sont loin de la Torah, ils sont des fous de Kabbalah. Et on croit que c'est une chose qui est facile. À part ce que je vous dis auparavant, Garbasson, il a dit qu'il n'a jamais ouvert un livre de Kabbalah avant qu'il ait fini tout le chasse, Yerushalmi, Bavi, il a dit, sachez que la Sugia, comment traduire en français une Sugia, le sujet traité en Kabbalah le plus simple, le plus facile, est plus dur que le sujet traité le plus dur qu'il y a dans toute la Gemara. Donc, qui sont ceux-là qui veulent comme ça rapidement rentrer en Kabbalah? Il faut grandir d'abord en pshat, et après, si quelqu'un il est pur, sain et grand, il peut rentrer dans la Kabbalah. Baruch Adonai, amen, amen, que son mérite nous protège. Je rappelle donc le 19 Tammuz, allumer des bougies, prier à Dieu, que par le mérite de Rabbi Son Ben Munaya, Dieu écoute nos prières. C'est marqué que les tzadikim dans leur mort sont plus forts que dans leur vie. Alors, sans tous ces miracles qu'il a fait dans sa vie, comment il peut faire dans sa mort? Énormément. Que son mérite nous protège. Amen, Kenératon.